Demain vendredi se termine la 25e conférence de l'ONU sur le climat à Madrid, une COP25 qui semble patiner avec la crainte d'un affaiblissement des engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat en 2015. Hier, des jeunes ont envahi la scène lors de la conférence de presse. Greta Thunberg a à nouveau interpellé les dirigeants mondiaux à agir. Mais à quel bilan faut-il s'attendre à l'occasion de cette COP? On en parle dans un instant avec l'historienne des sciences Amie Dahan, spécialiste des négociations climatiques et qui suit ces COP depuis 2004. Vous pouvez lui poser toutes vos questions en direct. Le standard est ouvert. 01 45 24 7000. Également vos questions sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Au menu de votre rendez-vous vert dans un instant.
Eh bien moi je me suis téléportée à Madrid, figurez-vous, pour parler avec les jeunes justement qui sont présents à la COP.
Dans la deuxième demi-heure, le dernier reportage de la série proposé par Guy Vangtil en Islande autour des fermes à Bitcoin très énergivores. Vos solutions pour la planète avec Hakim, un auditeur qui a imaginé une application qui nous permet de donner et de trouver des objets autour de chez nous de manière simple, ludique et surtout gratuite. Et puis enfin, notre invité découverte est le journaliste américain David Wallace Wells qui publie chez Robert Laffont « La Terre inhabitable, une réflexion sur l'état de notre planète ». Voilà pour le sommaire de cette Terre au carré, réalisé par Valérie Ayestaraï avec Tiffany Battistel et Loïc Frapsos à la technique.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. France Inter.
Bonjour Amie Dahan.
Bonjour Mathieu Vidard.
Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne des sciences, spécialiste, je le disais, des négociations climatiques et directrice de recherche émérite CNRS au Centre Alexandre Coiré. Et demain, donc, vont se terminer à Madrid les négociations de cette 25e conférence sur le climat. Vous avez suivi, vous, toutes les COP depuis 2004, à la veille donc de la clôture de la COP25. Qu'est-ce que on peut retenir de ce rendez-vous? On faisait une petite synthèse.
Bon, je n'étais pas à Madrid cette fois, mais bon, j'ai suivi
évidemment
par divers moyens tout ce qui s'est passé. Je crois malheureusement qu'on risque d'être une fois de plus un peu déçu sur sa fin. Il n'y a pas eu d'avancée décisive à cette COP, c'est le moins que l'on puisse dire. Et on voit bien que le climat général, enfin l'atmosphère générale des géopolitiques, je dirais, n'est pas à une très grande résolution des États et des gouvernements face à, pourtant, l'urgence climatique qui se manifeste de plus en plus. Et aussi, les divers rapports scientifiques ont été présentés lors de ce rendez-vous. Parce que ces COP sont toujours l'occasion de rendez-vous où on fait le point de la situation scientifique.
Oui.
Cette année, il y a eu deux nouveaux rapports du GIEC qui ont été présentés sur le sol et l'agriculture qui était paru en août, je crois, et l'autre en octobre sur les océans. Puis le rapport de l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature, qui a fait un rapport extrêmement alarmiste sur la question de la biodiversité et des zones marines côtières, qui sont des zones stratégiques à protéger, restaurer, etc., avec à chaque fois des constats de perte d'espèces, de dégradation des situations. Et puis en ce qui concerne les océans, c'est très grave, une baisse du niveau d'oxygène présent dans les océans, qui fait que bon, beaucoup de phénomènes de...
Ça, c'est les toutes dernières publications sur la perte d'oxygène.
Éventuellement, oui, on pourra en reparler si vous voulez. À chaque fois, les choses se dégradent de plus en plus vite, peut dire.
Accélération généralisée.
Voilà. Et nous sommes dans une course de vitesse avec cela, entre ça, cette situation, et puis la prise en main des choses, qui ne va absolument pas à ce rythme.
Ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant qu'on suit ces COP, et qu'à chaque fois, mes invités qui justement font le bilan comme vous disent exactement la même chose.
Bah oui,
c'est quand même affligeant, non?
Oui, absolument.
De se dire qu'à l'issue de ces COP, on en est toujours à dire exactement la même chose sur les attentes qui ne sont pas à la hauteur des enjeux.
Exactement, exactement. Alors, bon, on aura l'occasion d'en parler, et puis avec les jeunes que vous avez suivis, le seul élément d'espoir qu'on a eu depuis 2 ans, c'est le mouvement des sociétés civiles, en particulier dans les pays développés européens, disons.
Ouais. Ah, ça c'est important ce que vous dites, finalement.
Pour moi, c'est le seul
facteur. Le ressort, le levier, il est là, finalement, selon vous?
Pour moi, oui.
Les mobilisations citoyennes, la désobéissance civile?
Beaucoup de manifestations, l'impatience de ces classes d'âge qui voient qu'elles auront à affronter le problème. Parce que là, on parle des retraites, mais avant les retraites, qu'elles auront ou qu'elles n'auront pas, il y aura ça. il y aura cette situation climatique et environnementale désastreuse, y compris dans nos pays. On est en train de s'en apercevoir vraiment. On l'a vu cet été dans le sud de la France, les inondations, les canicules, etc. Et c'est vrai dans tout, dans de nombreux pays, hein, les feux extraordinaires, enfin absolument terrifiants, je trouve.
La Californie, l'Australie.
Exactement. Avant, il y avait eu la Russie, enfin, ouais. etc. Donc voilà, tout ça est là. Mm-hmm. Et quand est-ce qu'on va agir ?
Certains affirment que ces COP ne servent à rien. Quel est votre sentiment à vous, Amy Dahan, sur la question ?
Bon, écoutez, j'ai écrit longuement là-dessus. Je dirais que elles ont permis quand même une certaine montée dans la conscience planétaire de ce problème. Mmh. À l'accord, ça a été très très lent. C'est une fabrique de la lenteur, cette affaire. Hein. Tout est fait pour que c'est procédurier, c'est routinier. Bah, y a 200 pays à peu près à mettre d'accord. Donc oui. Tout ça est très très lent. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que depuis, je dirais, l'accord de Paris, moi je crois vraiment que ce processus international, il a donné un peu tout ce qu'il pouvait donner à l'accord de Paris. Mmh. Après, bon, il faut surveiller ce qu'on... Mais d'abord, on n'a pas pris assez d'engagement. Ils sont vraiment pas assez ambitieux. On s'en rend compte. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut les rehausser. On n'y arrive pas vraiment. Et puis, c'est au pays, aux régions, à tous les territoires, à toutes les échelles d'agir avec énormément de volonté, de volontarisme, d'activisme, etc. Et dans certains endroits, c'est pour ça que je disais, les mouvements de la société civile sont absolument cruciaux, parce qu'ils peuvent obliger les pouvoirs à agir.
Sauf que, Amy Dahan...
Mais ça suffit pas, bien sûr.
Le retrait des États-Unis, le silence assourdissant de la Chine à la COP25, ça dit quoi, finalement, sur l'avenir?
Ça dit que la situation géopolitique est absolument pas favorable.
C'est-à-dire qu'on a les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre bien qui sûr. Sont absents, finalement.
Absolument. Hein. Et du coup, ça encourage l'apathie de bien d'autres. La Russie, y compris l'Inde ou la Turquie, enfin tous ces pays-là qui ne prennent pas véritablement en main. Quant à l'Europe, la situation est, on peut dire, un petit peu nouvelle avec cette prise de position de la nouvelle commissaire européenne, qui a fait une déclaration et puis un très volontariste. Maintenant, est-ce que ça sera des discours ou est-ce que ça passera dans le réel ? C'est pas sûr, on ne sait pas. Parce que il faut aussi, par exemple, que des mesures politiques soient prises, économiques, matérielles, vraiment matérielles. Transformation de processus industriels, déplacement des investissements, etc. Bon, alors pour le moment, c'est trop tôt pour juger de la véritable sincérité. Ouais.
C'est quoi finalement la solution ? C'est la contrainte ? L'ambition et la contrainte ?
L'ambition, ça c'est sûr. La contrainte, en tout cas, il faut au moins que les chefs d'État et de gouvernement, enfin les gouvernements, les États, soient convaincus et offrent une vision cohérente du problème à leur population. Mmh. Parce que je crois qu'aujourd'hui, les populations, les peuples sont prêts, dans beaucoup d'endroits du monde, à accepter... Et même vont plus loin que leur gouvernement, etc. Pour certaines couches et strates d'âge, etc. Mais il faut qu'il y ait une cohérence. Moi, si vous voulez, je suis comme ça la convention citoyenne pour le climat qu'a créée le président de la République, enfin qui a été mise en place. Là, elle est un petit peu en arrêt à cause des grèves, mais c'était frappant de voir les 150 citoyens, etc., tirés au sort, représentatifs un peu de la France, prendre en main le problème, se passionner et se sentir responsable et vouloir aller plus loin.
Sauf que là, ce sont les citoyens, finalement, dont vous parlez. Mais est-ce que notre gouvernement est convaincu et offre une vision cohérente, justement, de la question climatique aujourd'hui ?
Alors, vous me posez la question directement et je vous dis directement, je n'ai pas l'impression aujourd'hui, j'en suis vraiment très triste, que la question, l'impératif écologique et climatique soit dans le logiciel de notre gouvernement. Ouais, soit là, présent dans son appréhension des choses, à tout instant et face à tous les problèmes.
Voilà. Bon, là c'est Macron qui est au pouvoir, mais Hollande, Sarkozy, avant lui, c'était la même chose, non ?
Ah oui. Je pense que aujourd'hui, alors bien sûr, des forces d'opposition disent que elles ont toujours voulu faire ça, mais on peut juger effectivement sur 25 ans et on peut dire que effectivement ça n'a jamais été au cœur des stratégies, des politiques à mettre en œuvre. Mais simplement, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2019-2020, eh bien, il y a des choses qui avancent dans la conscience politique.
Dans la société.
Dans la société, ouais. dans les sociétés.
Beaucoup civiles. Plus vite que chez
Beaucoup
les politiques.
Beaucoup plus vite, exactement. Mmh. Donc il faut que les pouvoirs politiques se mettent au diapason. Mmh. Ou ils vont être balayés.
Amidaman, au cœur de la COP25, l'article 6 de l'accord de Paris concernant les marchés de carbone votés donc en 2015. De quoi il s'agit pour nos auditeurs qui suivraient pas ces dossiers de près et pourquoi est-ce que c'est important justement d'en parler dans le cadre de ces négociations?
Bah, c'était, si vous voulez, c'était le dernier article qui manquait à l'adoption de ce qu'on appelle le rulebook, c'est-à-dire en fait le cahier de roulement qui va permettre l'application de l'accord de Paris. Mmh. Donc c'est un article qui, en gros, où il y a deux mécanismes de marché dedans. Un qui concerne, si vous voulez, l'ancien marché du carbone, où quand un pays dépasse ses objectifs, que ce soit baisse des émissions ou renouvelables, ou arrêt de la déforestation, enfin, dans certains secteurs, il peut monnayer à un autre qui, lui, n'a pas fait ses objectifs. Bon, on sait ce que ça a donné dans le protocole de Kyoto, pratiquement une usine à gaz pour comptabiliser les choses, et rien comme réelle prise en main et baisse des émissions. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qui est encore plus vraiment, je dirais, révoltante, c'est le fait qu'un certain nombre de pays veulent que l'ancien clean mécanisme, c'est-à-dire l'ancien marché du carbone dans Kyoto, soit incorporé dans celui-là, c'est-à-dire que les quelques petits résultats très très faibles que certains pays avaient obtenus ou avaient engrangés, disons, le Brésil ou l'Inde avaient pas mal de projets chez eux, donc ils espéraient engranger. Ben, ça les dédouane pour le prochain, c'est-à-dire ça compte dans celui-là. Et là, quand même, les pays très vulnérables, ou bien l'Europe, sont opposés à ça. Ils veulent qu'on mette les compteurs à zéro et voilà, ça soit une nouvelle
donc
comptabilité.
Donc c'est un article très critiqué aussi. Hein. Et donc on est loin, effectivement,
mais,
du temps
de
l'action.
Mais à part ça, si vous voulez, il y avait 300, à la dernière, au dernier pointage, il y avait encore 300 mots ce qu'on appelle entre crochets, ouais. Ça veut dire sur lesquels on s'est mis d'accord, etc., dans un article
ça
qui fait trois pages.
Hein. Ça fait beaucoup, voilà. Effectivement. Amida, on va rester avec nous, et le sujet de Camille, tout de suite, va vous intéresser.
France Inter. La Terre au carré.
Puisque Camille Cronier, on passe au vert avec ces jeunes qui participent aussi à cette COP25 madrilène.
Oui, ils sont plusieurs centaines sur place, membres d'organisations du monde entier pour faire entendre leur voix. Et parmi eux, quelques dizaines de Français, dont Hugo Viel et Irène Colonna d'Istria pour l'ONG Climate. Deux étudiants de 21 et 24 ans. Hugo a sauté sur l'occasion et dans un train quand la COP a été déplacée en Espagne plutôt qu'au Chili.
Ça me paraît hyper important de comprendre les enjeux et du coup d'être là et de me former à toutes ces choses un peu compliquées, mais qui pourtant drive un peu tous les pays.
Il est observateur, ça veut dire qu'il assiste aux réunions toute la journée.
La salle de négociation, très souvent, c'est des tables qui sont en rond. Il y a les négociateurs qui sont assis autour, et puis il y a un autre rang de chaises, souvent un ou deux rangs de chaises derrière pour les observateurs. Et puis on écrit tous ce que les observateurs se disent, comme ça on peut rendre compte à ceux qui ne pouvaient pas être dans la salle de négo, parce qu'il faut savoir qu'à la COP, il y a des dizaines et des dizaines d'événements en même temps. Par exemple, moi je suis le sujet de la finance, il y en a d'autres qui suivent les négociations sur les pertes et préjudices, il y en a d'autres qui suivent sur l'article 6, donc les marchés carbone, etc. Donc on se répartit un peu les thèmes, c'est un vrai boulot d'être là.
Voilà, ce matin par exemple, il était sur place dès 7h30, et il y en a jusqu'à au moins 20h le soir. Les comptes rendus ensuite sont publiés sur la page Facebook de Climate. Un vrai boulot donc, il le disait, et pas toujours facile, en témoigne Irène, qui passe les deux semaines entières à Madrid. C'est sa toute première COP.
Ma première impression, c'est que déjà, c'est compliqué de comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est très, très procédurier. C'est très juridique. Enfin, en fait, moi, j'ai pas de formation de juriste particulière, donc quand j'assiste aux négociations, je me rends compte qu'ils discutent de points hyper techniques, de mots dont, enfin, c'est pas forcément évident de saisir les implications.
Et puis elle s'interroge, Irène, sur le rôle des jeunes dans cette COP.
Moi, je me sens pas forcément très écoutée. Après, en fait, c'est aussi lié au fait que, comme c'est difficile de comprendre tous les enjeux, quand on parle, on se sent pas forcément légitime parce que on est jeune et que on a du mal à incarner la valeur de notre parole vu qu'on a rien fait jusqu'ici de concret, quoi. à part avoir envie de s'engager.
Alors Hugo, lui, n'a pas été trop timide pour échanger avec la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, avec qui il a discuté 10 minutes cette semaine au sujet notamment du décalage entre les discours, hein, les intentions affichées dont on parlait, et les actions.
Je lui ai demandé, mais comment vous comptez faire ? Donc forcément, la réponse, c'est c'est pas facile, faut prendre le temps, etc. Et c'est sûr qu'on se rend compte que forcément, un ministre n'est pas tout puissant.
Alors c'est moins cash quand même que leur icône Greta Thunberg, hein, Camille, qui affiche, elle, on l'a vu, sa colère face aux dirigeants.
Oui, d'ailleurs, ils l'ont vu de loin.
Je l'ai aperçu, ouais, mais en fait, entre 15 gardes du corps, passer à la vitesse éclair, quoi.
Et la méthode Greta, Irène l'admire, hein, l'envie presque, mais n'en est pas capable et elle s'interroge là aussi.
Quand on a eu un ministre en face de soi, c'est quand même un peu impressionnant et on n'a pas forcément envie de l'agresser, quoi. En tant que jeune, on attend de nous qu'on soit un peu enragé, quoi, et qu'on tacle les politiques. Après, moi, justement, je pense que une COP, je sais pas si c'est vraiment le meilleur lieu pour être enragé. Et c'est dans la rue qu'on l'est, en fait. Et du coup, là, c'est pour ça aussi que je sens que mes réponses ne te satisfont pas complètement face aux politiques, parce que je leur envoie pas des super punchlines dans la tête pour leur dire qu'ils servent à rien. Mais parce que je pense que stratégiquement, c'est pas la meilleure méthode à adopter, et que être jeune, c'est aussi savoir réfléchir finalement.
Alors, ils ont quand même fait, vous le disiez Mathieu tout à l'heure, un petit coup d'éclat hier pour dénoncer les pays qui n'en font pas assez.
Les USA ont largement eu leur récompense à être les meilleurs pour faire le pire. Il y a le Canada qui a reçu quelques récompenses aussi, l'Australie et le Japon hier, et le Brésil aussi. Donc voilà, on voit qu'il y a certains pays qui sont vraiment des champions de l'inaction.
Et Hugo et tous les autres ont été mis dehors hier, avant d'avoir le droit de revenir ce matin, pour commencer à faire le bilan des deux semaines qui s'achèvent, et ce n'est pas très brillant d'après Hugo.
Il y a beaucoup de déceptions dans les couloirs de la COP sur ce qui se passe. Les pays du Nord, entre guillemets, mettent beaucoup de freins à financer les pays du Sud, et c'est toujours le grand débat pendant les COP. Donc ça a été une COP très compliquée, assez spéciale, donc on en ressort avec un peu de frustration, mais comme apparemment l'année dernière ça s'était bien passé, il y a toujours un moment un peu plus compliqué l'année d'après.
Et le bilan d'Irène ?
Ce que j'en retiens fondamentalement, c'est le paradoxe de qu'est-ce que c'est être jeune à une COP. C'est un rôle un peu bâtard, un peu en coin, enfin on sait pas trop à quoi on sert, et en même temps on sait que c'est important d'être là, donc voilà. Et l'autre truc, c'est le décalage entre le terrain et la théorie, en fait. Moi, c'est ça qui me marque, c'est toutes les histoires qu'on entend de gens qui vivent le changement climatique vraiment sur le terrain, et la froideur des négociations, en fait. Et du coup, voilà, on a envie d'être le lien entre le terrain et la théorie, peut-être, et on sait pas encore comment faire, mais on y réfléchit.
Alors peut-être qu'elle mettra son trajet retour en bus à profit. 17 heures de route samedi, Hugo lui attend de voir si son train roulera dimanche.
Alors c'est Camille Passauvert, évidemment, à réécouter sur franceinter.fr.
Ami Dahan, vous êtes d'accord avec leur bilan et avec leur ressenti, c'est assez frustrant.
Oui, c'est un ressenti que j'ai eu moi-même avec mes étudiants, que j'ai emmenés année après année, parce qu'en fait c'est comme ça. Ils sont devenus d'ailleurs maintenant un peu des spécialistes de la question, qui exercent dans divers endroits, des enseignements universitaires, voilà, autour des questions climatiques et des politiques climatiques. Malheureusement, ce processus, c'est ça, c'est-à-dire c'est voilà un rythme lent où on discute les questions.
Vous disiez une fabrique de la lenteur.
Oui, une fabrique de la lenteur et aussi un schisme de réalité, c'est-à-dire la gouvernance. Bon, elle donne l'impression qu'elle veut avancer, hein, et puis le monde lui-même, le monde réel, avec ses compétitions économiques, son agressivité, les échanges, l'explosion des échanges de marchandises, de gens, etc., qui va à un autre rythme. Et c'est aussi ça, ce schisme. C'est l'écart entre les rythmes. Comment prendre en main les choses alors qu'on est dans le train-train des négociations. Voilà. Mais en même temps, ça m'a touché qu'ils disent ça, les deux, c'est que ce sujet est complexe. Il est très complexe. C'est pas si facile,
bien sûr,
hein, de se dire on va faire une transition. Il faut faire une transition, mais elle prendra des années.
Et on en parlait avec les auditeurs. Voilà. Dans un instant, ils ont des questions pour vous, Ami Dahan, au standard de la Terre au Carré. to the Surf. C'était Falls à l'instant.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Amida, notre invitée spécialiste des négociations climatiques, historienne des sciences et les auditeurs au bout du fil. Ça faisait longtemps,
Ça faisait longtemps.
Ça nous fait plaisir. Bonjour Yves.
Oui, bonjour, bonjour à Terre Carré, merci de prendre mon intervention, et bonjour également à Madame Dahan. Je suis très heureux de parler de quelqu'un d'important pour le climat de la planète. Je suis étonné que on ne parle pas trop en ce moment, et depuis longtemps d'ailleurs, du problème de l'énergie nucléaire qui crée énormément de chaleur et énormément de déchets nucléaires qui eux-mêmes produisent de la chaleur et qui durent comme le plutonium 240 000 ans. On oublie cela. Et c'est déjà, la Terre est polluée pour 240 000 ans. Déjà. Alors, évidemment, ça vaut quand même le coup de faire quelque chose. Je précise, Madame Dahan, que je suis arrière-grand-père, j'ai 86 ans. Ça fait plus de 60 ans que je me bagarre contre l'énergie nucléaire pour la bombe atomique. Et j'ai vécu en Nouvelle-Zélande. Je connais très bien le problème là-bas.
Alors,
ce qui se passe dans le Pacifique. Alors, comment se fait-il qu'on ne met pas en avant la lutte pour contre le nucléaire, qui est une énergie dont on peut se passer, et il faudra s'en passer de toute façon. Et je voudrais que vous disiez un mot sur vos perspectives de l'utilisation de l'énergie nucléaire, qui est plus qu'une escroquerie, c'est un crime contre l'humanité.
Alors, voilà. Yves, on va laisser répondre à Amida Dahan à votre question. D'abord, est-ce qu'on en parle à la COP25 de la question nucléaire ou pas?
Non, en général, on n'en parle pas, c'est vrai. Le nucléaire
est... Pourquoi? Parce que finalement, ça n'émet pas de CO2 ou...
En partie, oui, en partie. Mais il faut quand même savoir quelque chose, et c'est une des critiques très vives de ce processus, c'est qu'on ne discute pas clairement du bouquet énergétique idéal ou pas idéal ou réel de tel ou tel pays. Oui. On n'en discute pas en tant que tel. Oui. Pendant très longtemps, on n'en a jamais discuté. Donc si vous voulez, par exemple, un truc qu'on ne discute pas, les États-Unis ont fait, on peut dire, une révolution avec leur gaz de schiste. Ça a été très attaqué. Ça a beaucoup, beaucoup de désavantages géologiques, environnementaux. C'est une catastrophe. Mais ça leur a permis un petit peu de baisser leurs émissions. Pourquoi ? Parce que les émissions issues des gaz de schiste sont moindres que les émissions issues du charbon lui-même, à la même puissance fournie d'énergie. Bon, mais ça ne se discute pas. De la même façon qu'on ne discute pas de savoir les réserves de pétrole, est-ce qu'il faut... On a trop de pétrole, on le sait maintenant, on a trop de pétrole pour les 2 degrés et même les 3 degrés.
Mais pourquoi? Alors c'est des sujets tabous en fait.
Oui, ça ne fait pas partie des négociations.
Ouais. C'est incroyable quand l'enjeu c'est zéro carbone pour 2050
quand
même.
Exactement. Non mais c'est pour ça que dans notre ouvrage avec Stéphane Alécoute, on a parlé de schisme de réalité. C'est-à-dire qu'on parlait de baisse des émissions en fin de tuyau, mais quand on veut une baisse des émissions en fin de tuyau, de comment ça se passe à la source? Qu'est-ce qu'on extrait pas? Alors, le nucléaire, effectivement, ça ne fait pas des émissions
de gaz à effet de serre.
Ça, c'est vrai.
Ça fait plein de pollution avec les déchets pour des milliers d'années.
En plus, ça a énormément de désavantages, bien sûr, pour de sécurité dans les États terroristes. Enfin, vous imaginez tout ça. Mais donc c'est en dehors de la négociation et du problème. Quand Greenpeace a fait son premier grand rapport, qu'il avait appelé la révolution énergétique en 2008-2009, eh bien il disait c'est possible d'avoir une révolution énergétique sans nucléaire. Bon, aujourd'hui, on voit bien que par exemple en France,
c'est compliqué chez
nous. On devait arrêter tout.
On est le pire des exemples.
Voilà. Bon, mais c'est vrai aussi pour, par exemple, la Chine, dans son bouquet énergétique, elle a pour le moment 4% de nucléaire. Bon, voilà, c'est comme ça.
On a Jean-Philippe qui est également en ligne et qui souhaite dialoguer avec vous, Amida. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
Question, nous vous écoutons.
Oui, une remarque avant ma question. Ça va pas être sans nuance. J'ai 76 ans, je suis médecin généraliste, homéopathe, acupuncteur. Je vais commencer par la santé. Depuis 20 ans, explosion de toutes les maladies allergiques et de l'asthme. Je vais être vulgaire, nous respirons de la merde, nous mangeons de la merde, les dirigeants s'en moquent, ça c'est la deuxième remarque. C'est une naïveté me semble-t-il en tout cas, c'est du volontarisme de croire qu'on va faire bouger les dirigeants qui, en politique, c'est le court terme qui compte. On est sur le long terme. Les Greta Thunberg, il en faut une par pays, une dans chaque pays d'Europe. La seule façon de pousser nos dirigeants à agir, c'est qu'ils se rendent compte que leurs électeurs sont en avance sur eux et que s'ils ne suivent pas les électeurs sur l'écologie, ils seront renvoyés.
Ben c'est exactement voilà, ce c'est que vous disiez.
Ouais. Je le dis comme ça.
Ouais, mais c'est exactement ce que disait Amy Dahan, effectivement, il y a un instant. C'est-à-dire que là, ils vont être éjectés par les électeurs.
Je pense que, effectivement, en tout cas en Europe, les sociétés civiles sont bien en avance par rapport au pouvoir politique, ouais. Et cet écart risque de s'accentuer beaucoup.
Sauf que, est-ce qu'on n'a pas finalement aussi une déformation de notre vision des choses en imaginant que tout le monde aujourd'hui va voter pour un candidat écolo ? Parce que tout le monde ne s'intéresse pas loin de là à ces questions environnementales.
Non, là, pour le moment, moi, je parle des classes d'âge jeunes et des mouvements d'impatience de la jeunesse qui se manifestent. C'est pas gagné. On n'a pas encore, voilà.
Il suffit d'interroger certains de nos députés, comme l'a fait Camille Cronet il n'y a pas longtemps, qui sont des climato-sceptiques.
Et qu'ils le disent au sein de l'hémicycle même, hein, sans se faire reprendre d'ailleurs par le président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence.
Oui. Bah oui, je sais bien.
Joël, sur l'application France Inter, demande d'ailleurs qu'est-ce qui peut faire bouger les dirigeants si ce ne sont des tribunaux populaires et des débordements? Est-ce qu'il faut en arriver là ?
Des débordements, des procès, parce que certains, maintenant, la question climatique est l'objet dans plusieurs endroits de procès. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a eu le gouvernement a été condamné pour n'avoir pas suffisamment agi à la suite d'un procès, etc. Et il intensifie un peu son action. Non, mais tout est ouvert. Hein. Mais simplement, on sait bien que les très gros émetteurs, pour le moment, sont justement par exemple la Chine, dans un état non démocratique, où c'est pas...
Et les accords ne sont pas contraignants, les accords de Paris en l'occurrence.
C'est ce que nous dit Patrice d'ailleurs dans un message, hein. C'est toujours la même histoire, dans les démocraties, les représentants sont censés représenter les peuples et leurs inquiétudes environnementales, mais représentent trop souvent les lobbies. Par ailleurs, les lobbies, écrit-il, sont les meilleurs alliés des dictatures.
Oui, c'est sûr. Les lobbies sont aussi les alliés de certains pouvoirs qui ne sont pas vraiment des dictatures, mais Non, parce que j'attire quand même l'attention du fait que les démocraties ont beaucoup de défauts. Mais ça reste quand même les meilleurs régimes qu'on ait. Parce que ceux qui
on
nous disent...
On va pas se mettre à défendre les dictatures quand même.
Une dictature verte, non, ça n'existe pas. Ouais. Je pense que ça n'existe pas. Des dictatures bienveillantes pour les intérêts des peuples, j'en ai pas rencontré. Donc là, je m'oppose vraiment à ça.
Les choses sont claires et c'est nécessaire d'ailleurs d'être clair sur cette question. Merci beaucoup Amy Dahan d'être venue aujourd'hui dans la Terre au Carré. Donc demain s'achève cette COP25 avant la COP26 de Glasgow l'année prochaine, dans un an qui sera un moment important aussi. Hein.
Là en principe c'est un grand moment. Puisque c'est celle qui avait été déterminée à Paris comme étant la première grande étape de la mise en œuvre.
Donc c'est l'année prochaine. Merci beaucoup Amy Dahan d'être venue aujourd'hui dans la Terre au Carré. Juste après les informations, notre dernier reportage avec Guy Vanctil en Islande et en particulier dans les fermes à Bitcoin très énergivores.
France Inter, la Terre au Carré.
Dans cette deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec Hakim, un auditeur qui a imaginé une application pour trouver des objets autour de chez nous, de manière simple, ludique et gratuite. On va en parler avec lui, c'est autour du don. Et puis enfin, notre invité découverte est le journaliste américain David Wallace Wells qui publie chez Robert Laffont « La Terre inhabitable ». Tout est dans le titre, une réflexion sur l'état de notre pauvre planète. Mais pour le moment, dernier reportage de votre série en Islande. Bonjour Guy Vanctil.
Bonjour à toutes et à tous.
Nous repartons donc dans la Terre des data centers. Il n'y a pas que des volcans en Islande, qui viennent donc s'y installer pour bénéficier des énergies renouvelables ainsi que de son air frais, mais surtout pour y miner des crypto-monnaies comme le Bitcoin.
Oui, car les centres de données où transitent nos vies numériques, nos mails, nos vidéos et nos affaires ne sont pas les seuls à être hautement énergivores. On en parlait hier, un nombre croissant de fermes à Bitcoin et autres mines à crypto-monnaies se montent en toute hâte dans des hangars sécurisés. Une véritable fièvre de l'or numérique qui intéresse au plus haut point les capital risqueurs et les fonds d'investissement, mais qui agace de plus en plus d'Islandais comme Smeri McCarthy, élu du parti des pirates, pourtant technophile, et qui voit dans cette industrie un formidable gâchis.
Ok, let's go. Well, I'm the Bitcoin trader, navigator of the Bitcoin sea.
Le Bitcoin.
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 Le Bitcoin.
Bitcoin, exactement.
I'm the Bitcoin trader, come on and take a look at me.
Des investisseurs au nez creux auraient bâti leur fortune sur cette monnaie virtuelle.
Moi, je pense vraiment que c'est l'avenir.
Une monnaie très spéculative.
Aujourd'hui, on peut dire Bitcoin, c'est le roi. C'est l'or numérique.
En voyant le vent
complètement ébouriffant qui balaye cette espèce de tarmac là où sont posés ces hangars à la queue leu-leu, des dizaines de hangars avec ce bruit des ventilateurs en permanence. On comprend avec ce vent pourquoi c'est ici en Islande qu'on fait des économies de circuit de refroidissement. Et on rentre dans un petit Algeco, un petit préfabriqué où on voit sur les étagères des câbles qui sont pour le remplacement et puis des petits bouchons ear taps pour les oreilles. C'est quoi votre prénom ?
Isaac.
Isaac, vous travaillez ici ?
Mostly in maintenance, so yeah, I just fix the computers and look after them. And...
Moi, je suis là pour la maintenance, je suis là pour réparer les ordinateurs.
Fix them.
Ici, il y a des dizaines de hangars qui tournent tout le temps. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui bossent.
About 12 people.
Une douzaine de personnes sur ce data center. Et alors, vous, en dehors de vos heures du bureau, est-ce que vous faites du minage ?
No, electricity is too expensive.
Ça coûte trop cher, l'électricité ?
The home electricity is too expensive.
Ça coûterait trop d'électricité pour la maison pour pouvoir le faire. Donc, vous avez zéro bitcoin, vous ?
Yeah, I don't have any.
Mais alors, vous n'êtes pas en train de rater le coup, là ? Vous travaillez pour des gens qui sont en train de dépenser des millions pour gagner potentiellement des millions. Et alors, vous êtes payé des clopinettes et vous n'avez pas votre part du gâteau.
No, it's just fine doing it here, not starting it also at home.
C'est déjà bien de bosser ici. On ne va pas commencer à le faire à la maison.
Yeah. And...
Good luck. Because yeah. I wanna be a Bitcoin billionaire. Spending money like I don't care. Mining coin in my underwear. Mais nous voici dans un autre data center, dans une autre mine, et qui appartient, celle-ci, à un des leaders mondiaux du domaine, qui est la société Genesis Mining, la Genèse. Et c'est vrai que c'est la genèse d'un nouveau monde qui est en train d'annoncer là. Et Genesis Mining vous propose, vous aussi, de participer. Si on regarde sur leur site, ils nous disent « Rejoignez plus de 2 millions de personnes avec le fournisseur leader mondial de puissance de hachage. »
Get started now on genesismining.com.
Commencez aujourd'hui à miner du Bitcoin. C'est super simple. Dès que vous avez paramétré votre compte, vous pouvez commencer à miner vos premières devises de Bitcoin.
So mining really is the backbone of the crypto industry.
Commencez maintenant à miner.
And it's not just for those who can build $1 million data center.
Obtenez vos premiers revenus de minage dès aujourd'hui.
At Genesis Mining, we build mining facilities and share them with anyone who wants to join us.
Essayez notre plateforme de minage Bitcoin dès maintenant.
Yes, it really is that easy. Get started now on genesismining.com.
C'est un bruit assourdissant, ça rend fou là. Il est temps pour moi de sortir de cette mine.
Hello, I'm a French journalist and I have an appointment with Smerri McCarthy.
I'm Smerri McCarthy, I'm a member of parliament in Iceland.
Merci de me recevoir dans vos bureaux. Monsieur McCarthy, je répète, vous êtes député ici pour le parti pirate et votre pays, l'Islande, est quand même en première ligne pour ce qui est de l'engouement qui s'est fait pour la technologie blockchain et pour les crypto-monnaies.
But the thing that is so nefarious here is that the amount of work you need to do, especially in the scheme that Bitcoin uses, it grows as more people are using it and the more.
Mais le problème avec le Bitcoin en particulier, c'est qu'au fur et à mesure que de plus en plus de gens participent, les calculs deviennent de plus en plus longs et plus en plus compliqués. Et ça demande de plus en plus de gens pour faire de plus en plus de calculs pour avoir la même quantité de Bitcoin.
And this means that we have like this weird race going on amongst everybody who wants to benefit economically from.
Qui donne cette course un peu folle entre tous ceux qui veulent profiter de ce système économique.
And all of these computers are using a lot of energy, so they need to go to the places with the cheapest energy.
Et donc tous ces ordinateurs utilisent de plus en plus d'énergie, donc ils vont là où l'énergie est la moins chère.
And using the energy here to essentially profit, but not really leaving anything behind.
Et ils utilisent toute cette énergie pour leur profit, mais sans en faire profiter le pays vraiment.
But at some point, a country like Iceland needs to ask itself: do we really want to be wasting this amount of energy, roughly the amount of energy of the entire country of Switzerland?
Et c'est le moment où on va se poser la question: est-ce qu'un pays comme le nôtre doit dépenser autant d'énergie, par exemple, que toute la Suisse?
On doing unnecessary math for the purpose of maintaining an incredibly inefficient database.
Pour faire des bases de données incroyablement complexes, tout ça pour garantir des calculs qui permettront ces crypto-monnaies.
And I would posit that the answer should be no.
Moi, je pense que la réponse à cette question devrait être non.
You know, we're seeing the climate in dire trouble. We're seeing the Amazon burning.
On voit le climat qui se bouleverse, l'Amazonie qui brûle.
And I think that, you know, humanity needs to really just start asking the question, how can we stop wasting energy?
Et la question que je pense que l'humanité devrait se poser, c'est bien plutôt comment cesser de gaspiller de l'énergie.
Look at the cryptocurrency, man, it's such a blur and see a new one every day. And all the world is crypto.
Conclusion provisoire, donc Mathieu, comme oui. Le font tous les mineurs de Bitcoin en Islande qui disent on consomme énormément d'énergie, mais elles sont renouvelables, alors ça va. Oui. Bah, ça va pas être viable très longtemps dans ce business hautement spéculatif, car l'enjeu pour les investisseurs reste avant tout financier, avec des fluctuations du Bitcoin qui vont de 2 900 € il y a un an à 13 000 cet été pour retomber à 6 453 très exactement aujourd'hui. L'environnement passera toujours au second plan pour l'instant.
En tous les cas, pour repartir en Islande avec vous, on peut réécouter l'ensemble de votre série sur le site de la Terre au Carré, Give, et puis également voir les photos que vous nous avez rapportées de votre périple. Eh bien, d'un Give à l'autre, on va en parler tout de suite.
C'est un scandale.
Oui, vous allez voir.
France Inter, la Terre au Carré, vos solutions pour la planète.
Bonjour Hakim.
Bonjour.
Bienvenue
Bonjour.
À vous. Vous êtes le cofondateur d'une application qui a piqué le nom de notre reporter, en fait, c'est ça? Ça s'appelle Give aussi.
Absolument, non. Exactement. Give comme donner, tout simplement.
Exactement. Sauf que ça s'écrit G2EV. C'est une application, une start-up, donc, que vous avez lancée il y a 2 ans avec votre camarade Florian Blanc. Et donc, il s'agit d'une plateforme de dons d'objets et de nourriture entre particuliers. Expliquez-nous de quoi il s'agit exactement et comment vous avez eu cette idée au départ, hein.
C'est exactement ça, Guy. C'est une plateforme de dons, donc alimentaires et non alimentaires entre particuliers. En fait, l'idée nous est venue d'abord de l'objet, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait énormément chaque citoyen des objets chez nous qui ont une valeur d'usage, donc on peut vraiment utiliser, mais dont on ne fait rien parce que on n'a pas le temps et du coup on les stocke ou alors on les jette. Et on s'est dit que qu'une manière très très simple de pouvoir les remettre en circulation était de les donner. Et on s'est dit qu'on pouvait utiliser la puissance du web et en fait cette demande colossale qu'on peut créer aujourd'hui sur les plateformes du web pour en fait donner un maximum de chance à ces objets de retrouver une seconde vie.
Alors voilà, c'est l'idée véritablement de la seconde vie des objets. Et vous avez donc ces givers, hein, qui sont donc les personnes qui proposent et ceux qui sont intéressés. Et en général, ça marche très très bien et surtout très très vite, hein, c'est ça?
Bah, c'est exactement ça, en fait. À partir du moment où on enlève la variable argent de ces transactions, parce que même s'il n'y a pas d'argent, on peut quand même parler de transactions, bah, finalement, ça va très vite. On est sur une expérience qui est très positive. Quelqu'un qui veut donner une seconde vie à son objet, crée tout simplement une annonce. Donc, c'est quelques clics, une petite description. Nous, de notre côté, on valide cette annonce, on valide toutes les annonces. Et puis après, avec la géolocalisation, étant donné qu'aujourd'hui, c'est la majorité de l'audience se connecte via une application, bah, en fait, vous allez voir tous les objets qui sont disponibles autour de chez vous. Vous allez contacter la personne qui donne cet objet ou cet aliment, parce qu'on fait aussi de l'alimentaire, et finalement, vous allez aller le chercher.
Alors,
donc, c'est très rapide, c'est du très local, c'est de l'extra-local, et c'est effectivement très efficace.
Hakim, vous dites donc donner une seconde vie aux objets. C'est vrai, moi, j'ai téléchargé votre application, je l'ai sous les yeux. Je vois, par exemple, une machine à laver, à réparer, etc. Mais il y a aussi peut-être un petit côté se débarrasser de certains objets, parce que je tombe sur un vieux pare-choc.
Un tube de dentifrice déjà utilisé
une fois, qui est réservé, je précise. Des tampax, des couches pour chiens, un vieux cendrier. Il y a un petit peu de tout quand même. Hein.
Il y a vraiment de tout. En fait, on retrouve vraiment tous les objets qu'on peut retrouver dans une habitation normale, hein. Donc ça peut être des produits très usuels, et effectivement vous évoquez un cendrier, etc. Ça peut être des couverts, ça peut être une assiette, etc. Ça peut être des choses qui sont beaucoup plus volumineuses et même qui pourraient avoir une véritable valeur, hein, sur un marché, des meubles, etc. On retrouve vraiment tout type d'objets. Mais alors ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que tout ce que vous retrouvez sur la plateforme aujourd'hui est posté par des utilisateurs. Donc la perception que vous allez en avoir est très subjective. Ça va dépendre de où vous vous trouvez, ça va dépendre de la photo, de l'angle de la photo, etc. En tout cas, nous, on s'attache quand même à valider tout ce qui a une vraie valeur d'usage. Et même si les objets peuvent sembler de peu de valeur ou avec un usage peut-être même limité...
Il y a une boîte de téléphone vide, par exemple. Une boîte de téléphone vide.
Ben en fait, à partir de, peut-être effectivement, il y a peut-être des choses un petit peu originales. Ça, effectivement, c'est peut-être. Mais vous savez, en fait, à partir du moment où vous enlevez la ce qui crée de la friction et ce qui crée de la difficulté dans finalement la seconde vie de l'objet, c'est souvent la valeur perçue, c'est-à-dire une transaction, c'est-à-dire le prix. À partir du moment où la personne donne cet objet et où du coup la relation aussi est très différente. Hein. On parle de don, donc c'est toujours très très positif. La personne qui donne est toujours très contente de donner, la personne qui reçoit est toujours très contente de recevoir. Et les gens donnent pour des raisons très variées. Hein. L'éventail des raisons pour lesquelles les gens donnent sont multiples. Ça va effectivement d'un acte très pratique. Donc j'ai besoin de peut-être même de me débarrasser, mais peu importe. Hein. À partir du moment où cet objet retrouve une seconde vie, c'est le contrat est quand même rempli, jusqu'à des raisons qui sont des fois beaucoup plus engagées, beaucoup plus militantes, beaucoup plus orientées, consommation responsable. Mais finalement, nous ne sommes pas là pour donner les raisons à nos utilisateurs, aux givers, de leur donner des motivations de leur don. On est vraiment là juste pour créer une plateforme sécurisée, efficace, qui leur permet d'atteindre leur objectif et de donner facilement.
Et on trouve des choses très bien. Moi, j'ai trouvé un très bon canapé et un vêtement pour ma chienne également, qui durera certainement très très bien. Il faut aller vite parce que les annonces, ça fuse, hein, effectivement, sur ce site. Vous nous redonnez l'adresse exacte, Hakim, pour télécharger l'application?
Alors, elle est disponible, du coup, sur iPhone, sur Android. Ouais. Donc, il suffit de taper GIV, G-E-E-V, dans les stores. Ou alors, sinon, si vous voulez vous connecter en web, il suffit d'aller sur GIV.com, G-E-E-V.com.
Merci beaucoup, Hakim, et bravo pour cette initiative autour du don. Merci d'être passé dans vos solutions pour la planète. Et dans un instant, bah justement, nous allons parler de notre planète mal en point avec notre invité, le journaliste David Wallace Wales.
Dans la chaleur, mois de juillet, sur un vieux scooter débridé, par la vitesse, les larmes tirées tombent sur leurs jambes dénudées. Ils reverlent la cassurée, que rien ne puisse leur arriver. Trop jeune et déjà cabossé, d'une vie en ronce et de fleurs fanées. Au-dessus de l'usine, le ciel est dégagé, dans l'ouvert bouteille se reflète l'été. Étendus dans l'herbe, ils ne font que fumer, perdus dans leur rêve, libre d'être oublié. Percé par le souffle du sirocco, en sourdine un morceau de techno. Le soleil au zénith qui brûle la peau, rafraîchit de désir si loin des idéaux. Ils se mordent les lèvres et se dévorent, ôtent leurs jeans cul nus sous les rayons d'or. Leurs mains se cherchent et se trouvent encore, pour languir le plaisir qui finit par éclore. Poussière d'étoiles, les ombres tombent sur ton, l'obscurité déposera sur les couleurs un voile. Il se fabrique des souvenirs avant que tout ne s'estompe, que l'on oublie les voix et les feux de Bengale.
Après eux, c'était Tim Dup à l'instant.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Bonjour David Wallace Wells.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes chercheur à la New America Foundation, vous êtes éditorialiste, rédacteur en chef adjoint au New York Magazine, et donc vous publiez ce livre, La Terre inhabitable, vivre avec 4 degrés de plus, qui vient d'être traduit en français chez Robert Laffont. Et votre livre fait partie de ces ouvrages que l'on referme avec le moral encore plus bas qu'en début de lecture, car même si l'on sait que la situation est grave, eh bien vous êtes là pour nous rappeler qu'en réalité, c'est bien pire que ce qu'on imagine, et c'est la première chose même que vous écrivez. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'épargniez pas le lecteur. C'était le but pour vous, finalement, de nous secouer.
L'objectif principal, en fait, c'était d'être très sincère sur l'état de la recherche scientifique. Je pense que depuis très longtemps, les journalistes et les scientifiques eux-mêmes, en fait, étaient réticents à l'idée de parler de l'issue extrêmement effrayante que suggérait leur recherche. Et je pense que ça a donné une impression fausse sur le changement climatique. L'idée que c'était un processus lent qui se jouait sur plusieurs siècles, qui concernait surtout la hausse du niveau des océans. Donc si on était loin des côtes, on était en sécurité, et qui disait aussi que le scénario d'augmentation de 2 degrés était le pire scénario. En fait, aujourd'hui, c'est le scénario dans le meilleur des cas. Et peu de journalistes ont raconté comment ça se passerait au-delà de 2 degrés de réchauffement. Donc le livre avait l'intention d'explorer cet univers-là, à quel point les dégâts en fait, que subirait cet univers au-delà de 2, voire 3, 4 degrés, mais aussi de répondre aux questions au-delà de la science. Qu'est-ce que ça signifie en termes de politique, en termes de géopolitique, en termes de culture, en termes de relations que nous avons avec la technologie, avec le capitalisme, notre perception de l'histoire, cette sensation d'être dans le progrès ou non. Si nous vivons dans un monde qui est défini par le réchauffement climatique, et c'est ce que nous disent les scientifiques.
Mais vous, dans votre écriture, est-ce que vous avez eu envie justement de provoquer un électrochoc aussi ?
J'espérais écrire un livre pour la personne que moi j'étais il y a quelques années. J'étais inquiet du changement climatique, j'avais conscience de ce problème, mais je pensais que c'était un problème parmi d'autres, et non pas vraiment le grand problème de notre époque. En fait, je me faisais des illusions sur l'urgence et la peur en fait, que peut inspirer le réchauffement climatique, comme beaucoup de gens que je connais. Et donc j'aurais voulu pouvoir me saisir par le col en 2015, en 2016, et me dire « tu dois t'en soucier davantage ». Et en fait, je voudrais que ce livre ait le même effet sur les lecteurs qui, aujourd'hui, en 2019, sont à peu près dans la même situation que celle dans laquelle moi j'étais en 2015.
Alors vous évoquez justement dans cet ouvrage les biais cognitifs, hein, évoqués par les neurologues également, qui montrent à quel point finalement notre cerveau est un organe qui a horreur du changement et qui accepte en général très mal les injonctions au changement. Est-ce que c'est pas contre-productif finalement de prendre les choses de cette manière ?
Presque tous les aspects de la société humaine et de la psychologie individuelle vont à l'encontre de l'idée d'agir contre le changement climatique. Ces biais cognitifs que vous venez de mentionner, parmi lesquels un désintérêt pour les scénarios réellement effrayants, font que nous n'avons pas forcément envie de faire de grands changements et surtout nous avons du mal à croire que ce soit possible. Donc ces projections sur la gravité du changement climatique ne nous aide pas non plus à croire que nous pouvons agir dessus. Il y a aussi des obstacles au niveau social et au niveau politique. Les politiciens connaissent ces problématiques depuis très longtemps et ne font rien, ou pas grand-chose. Et au niveau géopolitique, tous les États, individuellement, sont confrontés à des incitations qui sont perverses, en fait, et qui peuvent être contradictoires. Par exemple, agir pour les citoyens français aura un impact peut-être invisible si le reste du monde n'agit pas de la même manière. Donc nous sommes confrontés à des obstacles, mais pour autant, l'action est possible et ces obstacles ne sont que des obstacles humains, en fait. Ces obstacles politiques, économiques, nous avons l'impression qu'ils sont immuables, mais en réalité, ce ne sont que des créations des humains. Et si nous voulons combattre le changement climatique et en faire une priorité de la même manière que nous avons fait de la croissance une priorité ces dernières années pour avoir un avenir qui soit relativement vivable, qui soit relativement prospère, relativement juste. Ces changements, en réalité, sont très difficiles à faire, même si les forces publiques s'en préoccupent davantage aujourd'hui et s'en préoccupent aujourd'hui davantage et que les changements sont davantage possibles qu'il y a peut-être un an avec toutes ces manifestations que nous voyons aussi dans l'espace public et tous ces mouvements.
Comment vit-on justement, David Wallace Wells, avec un président américain ouvertement climato-sceptique, très peu intéressé par les questions environnementales et écologiques? Est-ce qu'il y a un contre-pouvoir écologiste finalement aujourd'hui aux États-Unis?
Eh bien, il y a des actions qui ont lieu au niveau gouvernemental et même au niveau local. En fait, certains des projets les plus ambitieux en termes d'énergie renouvelable aux États-Unis ont été mis en place dans des États rouges, comme l'Alabama, l'Oklahoma, etc., parce qu'il y a beaucoup en fait, de vent, par exemple, pour ces énergies-là. L'action de notre gouvernement rend la vie difficile aux États-Unis, pas que pour les questions environnementales. Je m'inquiète de ce qu'il fera par la suite. On peut imaginer les pénuries en fait, auxquelles on va faire face à cause du changement climatique. On peut imaginer aussi qu'on risque de se retirer davantage des coopérations internationales et que les pays vont se tourner davantage vers leurs propres intérêts. Et c'est exactement ce type de politique qu'on voit se développer aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement Trump, c'est aussi Poutine et beaucoup d'autres exemples. Et cette dynamique-là, elle est particulièrement inquiétante parce que on peut imaginer que les États, sur le plan individuel, fassent en sorte de limiter leurs émissions de CO2. Mais si nous avons toujours des pays importants au plan mondial qui s'intéressent davantage au bien-être de leurs propres citoyens plutôt qu'à l'avenir de l'ensemble de la planète, nous allons avoir une situation catastrophique parce que nous n'avons pas le temps, en fait, que certains pays agissent lentement. Nous avons besoin que tous les pays agissent très rapidement et dès que possible et à très grande échelle.
Alors, ce qui est fou, c'est que les Américains, déjà dans leur vie quotidienne, éprouvent les effets du changement climatique. Vous citez un certain nombre d'exemples. Que ce soit les inondations ou même les incendies dont on entend parler de plus en plus souvent, qui sont des événements aujourd'hui qui vont devenir de plus en plus fréquents et violents. Et pour autant, même si on peut vivre au quotidien cette réalité, il y a une sorte d'évitement qui se fait de la part des personnes.
C'est pas vrai uniquement pour les Américains, je pense. Je crois que nous sommes tous réticents à prendre au sérieux ce que ces projections nous indiquent au sujet de notre avenir, parce qu'elles sont extrêmement effrayantes. Quand je regarde les sondages, ce que je vois, c'est qu'une grande majorité d'Américains se préoccupent du changement climatique. 70 à 80% croient dans le réchauffement climatique et sont inquiets. Le problème, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont concernées de manière théorique, mais qui ne sont pas déterminés à faire des changements dans leur propre vie ou dans leur vie politique. Et les changements sont nécessaires. Par exemple, j'ai fait des reportages sur les incendies de forêt, les feux de forêt en Californie au printemps. Je pensais, était en train de montrer que c'était un exemple de la manière dont l'avenir pouvait se dérouler et à quel point le changement climatique pouvait avoir un impact terrible, y compris dans des pays riches comme le nôtre. Mais en fait, c'était finalement une étude de cas de la normalisation. C'est-à-dire que malgré le développement incroyable de ces feux de forêt, tous les Californiens à qui j'ai parlé m'ont présenté ça comme un élément normal qui faisait partie de la vie en Californie. Même si ces incendies étaient pires que tous ceux qu'il y avait eu avant et qu'on en a 10 fois plus aujourd'hui, et que d'ici la moitié du siècle prochain, ce sera encore pire, du siècle dans lequel nous sommes, ce sera encore pire. Mais ces gens me répondaient, mais vous êtes de New York. Et ils me disaient, mais vous avez eu des ouragans, Sandy par exemple. Certes, c'est vrai. Mais cette logique-là, elle m'inquiète, parce que nous avons tendance à faire une normalité de la souffrance dont nous faisons, nous, l'expérience, mais aussi de l'impact que ça peut avoir dans le monde en développement, où ça va être encore bien pire que dans des endroits comme Paris, le Royaume-Uni, les États-Unis. Il y a déjà 9 millions de personnes qui meurent de la pollution de l'air chaque année, principalement dans les pays en développement. C'est pourquoi nous ne nous en préoccupons pas. Nous avons déjà appris à définir cette souffrance qui a lieu ailleurs dans le monde comme peu importante. Et le réchauffement climatique va augmenter encore cette souffrance-là. Donc si on veut pouvoir y réagir avec un minimum d'empathie et de morale, il va falloir être bien plus ouvert vis-à-vis de ces personnes, il va falloir accueillir davantage cette souffrance et les personnes qui sont dans des situations difficiles. Parce que ce scénario qui serait le meilleur des cas de 2 degrés d'augmentation, on va avoir des centaines de millions de réfugiés climatiques. Et ce sera probablement un des pays comme les États-Unis et la France de les accueillir. Et si nous leur tournons le dos, ce sera terrible.
Merci beaucoup David Wallace Wales d'être venu donc dans La Terre au Carré. Votre ouvrage traduit en français chez Robert Laffont, ça s'appelle La Terre inhabitable, vivre avec 4 degrés de plus. Et merci à Marguerite Capelle pour la traduction de cet entretien. Merci à vous.
Merci à vous.
Et merci à vous Camille d'être venue aujourd'hui dans La Terre au Carré. On se retrouve demain. Denis Delbecq à la rédaction, chef de l'émission. Thierry Dupin pour la programmation musicale.
Et Chantal Le Montagnier, Lucie Sarfati et Irem Menahem pour la préparation des dossiers. À demain.
À demain.